va passer au point 8, modulation des programmes gouvernementaux. Le point est à l'ordre du jour parce qu'il a été abordé lors du dernier conseil d'administration de la FQM. On s'aperçoit que plusieurs programmes, notamment les programmes en logement et en transport, ne correspondent pas, ne sont pas adaptés aux réalités des communautés rurales. On a discuté aussi de tout ce qui était infrastructure. On parle ici, par exemple, du complexe des eaux profondes où les programmes de financement 2/3, 1/3 pour des communautés rurales, quand on est rendu dans des investissements de 25-30 millions, là, le complexe coûterait probablement moins que ça, mais ça reste des gros investissements, 2/3 financés par des populations en milieu rural. Ça finit par faire lourd et c'est toujours la même poche qui paye. Le logement, c'est évident. On parle de réfection ou de réseau d'aqueduc ou d'amélioration des infrastructures actuelles. Les coûts de construction ici coûtent plus cher qu'ailleurs et on le sait, c'est entre 18 et 32 %, c'est documenté. En conséquence, on est très interpellés par cette situation-là. On aura éventuellement à adopter une résolution. Et là, quand je dis on en a parlé au conseil d'administration de la FQM, oui, on en a parlé. Et dans le contexte, ce que vous nous avez transmis comme réalité, ça se transporte à la FQM. Donc, ça nourrit l'ensemble des interventions qui sont faites à ce niveau-là. Donc, on aura probablement dans les prochaines semaines à prendre une résolution formelle sur les programmes, les différents programmes, pour demander que l'ensemble des interventions gouvernementales qui touchent les communautés rurales et MRC rurales comme la nôtre soient modulées en fonction des réalités. Tu parlais tout à l'heure, Marc, du financement de l'équipement aquatique. Bien, c'est le genre de modulation qu'on recherche. Qu'on soit en mesure d'avoir un coût au niveau des citoyens qui soit comparable à ce qu'on peut voir ailleurs. Je me fais un plaisir de rappeler à toutes les fois qu'en transport collectif, sur le milliard qu'investit Québec à chaque année, il n'y en a même pas 1% qui va dans cette région du Québec. Alors, dans le contexte, les programmes ne conviennent pas aux communautés rurales. On demande une modulation des programmes gouvernementaux. On aura adopté une résolution sous peu. On va le faire en concertation avec l'ensemble des MRC rurales du Québec. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Questions, commentaires?
Plus un commentaire. Comment ça a coûté le bassin aux Îles-de-la-Madeleine?
Le bassin, je ne sais pas, je me souviens que celui...
aux Îles-de-la-Madeleine, la piscine, comment ça a coûté?
Je ne sais pas, à Havre-Saint-Pierre?
Aux îles, zéro.
A coûté zéro?
C'est le gouvernement qui l'a payé.
Au complet?
Oui.
Ah, je ne savais pas, parce qu'à Havre-Saint-Pierre, c'est eux autres qui l'ont payé, mais 14 millions.
À certaines places, ils identifient... Tu sais, là, ça, c'est comme une rente de publicité, en fait. Ça identifie des gens, là. Mais le Témiscamingue, des places à Côte-Nord, en Gaspésie, on est à la même place. Tu as 16 000 personnes pour te bâtir une infrastructure qui va valoir, mettons, 20 millions. Il faut t'en payer 33 %. Ça n'a aucun sens. Il faudrait que ça soit financé au minimum à 90 %. C'est le minimum. Comment veux-tu? Puis là, c'est parce que tu fais un rang de projet de même, on n'est pas contre, parce que la région le veut. Ça te stoppe pour tous les autres projets. Parce que l'argent, là, si c'est un 20 millions pour une piscine, tu en as un 18 millions pour un incinérateur, puis tu en as 30 millions pour une autre affaire, si tu n'as pas plus que 16 000 personnes le lendemain, là. Fait que quand tu commences à faire le total de l'ensemble des millions, c'est là qu'on a un manque à gagner.
Fait que les Et pourtant, projets... on est largement contributif à la prospérité du Québec.
Et c'est ça, notre région, parce qu'on va l'apprendre en région d'Abitibi-Témiscamingue, on en met pas mal d'incorps, c'est ça. Pas mal. Donc, on pourrait avoir un petit retour de temps en temps. Du transport collectif, on n'aura pas ici. En tout cas, je pense pas qu'on va bâtir sur un métro de même. Pas sûr. En tout cas. Mais.
Le milliard par année, c'est pour les usagers, c'est pour l'utilisation du transport.
C'est que le retour qu'on a, il n'est pas là. Puis, pour. Faire un projet majeur stoppe l'ensemble des autres projets.
C'est vrai.
Tu as raison de dire qu'il faut vraiment moduler les programmes.
On va revenir de toute façon à la charge là-dessus. Dans l'intervalle, tous les exemples que vous pouvez nous fournir vont être soyez certains qu'ils seront utilisés en votre faveur. Ça va pour ça. Véronique, je vais maintenant te laisser la parole sur le Fonds Région Ruralité, les différents projets qui ont été qui sont recommandés ce soir.
Bonsoir à tout le monde. Là, je ne sais pas l'ordre dans lequel vous les avez en termes de résolution ou pas. Peux-tu me donner le premier?
Compte rendu des projets de deuxième appel. C'est l'information générale.
OK, parfait. D'accord. Alors, on a tenu le deuxième appel du volet municipalité et organisme. Il a pris fin le 24 avril dernier. On a reçu 10 projets. Et ce soir, on vous en recommande 6 en fonction de l'analyse qu'on a fait le comité du GARM. Donc, on avait une enveloppe initiale, puis l'enveloppe, là, cette année, c'est nouveau, mais on la présente, je dirais ça comme ça, avec le volet municipalité organisme et le volet projets spéciaux dans d'une même enveloppe. Donc, on avait 852 446 $ et lors de l'analyse, donc ce qui était disponible, c'est 540 000 a été déduit de ça. Le premier appel, mais aussi les projets au niveau des projets spéciaux, entre autres un projet de l'aquaplanaire plein air et tout ça qui avait été adopté en séance du conseil. Donc, on a une enveloppe disponible de 540 000. Donc, 6 projets que je vous présente ce soir. Le premier est présenté par la Maison des jeunes du Témiscamingue. Ça s'appelle Rénov Ado. Il s'agit de faire des réparations majeures sur le bâtiment de l'organisme qui est situé à Lorrainville. Et surtout de faire un réaménagement du rez-de-chaussée. Donc, il faut savoir que le local de Lorrainville pour la Maison des jeunes, il sert aux adolescents du secteur centre, mais il regroupe aussi les adolescents du secteur est et nord pour certaines activités. Il s'agissait aussi d'aménager la salle de bain puis l'espace afin d'être accessible aux jeunes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas. Ça permet aussi l'ajout de nouveaux services. On parle d'ateliers de cuisine collective et de services d'aide aux devoirs. Et il y a une implication aussi des jeunes par rapport aux couleurs, le réaménagement et tout. Donc, le montant qui était demandé, c'était 17 500 $ sur un projet total de 240 000. Donc, eux avaient réussi à avoir du financement de 160 000 du secrétariat à la jeunesse, 7 500 de Desjardins, puis il y avait un engagement de l'organisme pour 55 000 $. Donc, ce que le comité du GARM a ressorti par rapport à ce projet-là, et notez qu'il est axé sur la qualité de vie, services de proximité, donc ça permet le rassemblement des jeunes dans un lieu sécuritaire. On l'a jugé comme un projet territorial parce qu'il dessert 3 secteurs, donc on parle nord, est et centre. Il faut savoir qu'il y a une maison des jeunes pour le secteur sud, qui n'est pas desservie par la même organisation. Ça permet aussi la mise en place de nouvelles activités pour mieux soutenir les jeunes et répondre à des besoins concrets. Depuis la pandémie, l'aide aux devoirs est une nécessité, ça a été constaté, donc il n'y avait pas d'emplacement pour le faire à la Maison des jeunes. Et cuisine collective est beaucoup en lien avec les jeunes qui s'en vont rapidement en appartement dans notre secteur, donc de donner une base là, pour ces jeunes-là. On a noté aussi que le soutien du FRR est complémentaire, parce que leur financement était confirmé à 93 %. Donc, le 7 % qui nous est demandé est vraiment complémentaire. Un projet qui est très appuyé du milieu, donc plusieurs organisations, CDC, le Centre de femmes, le CIS, le CALAC, l'Entretoise, et des municipalités aussi qui avaient donné leur appui, du Amel-Ouest, Lorrainville, Ville-Marie, Fugerville, on retrouvait tout ça au projet. Je vous dirais que c'est un des projets les plus complets qu'on a analysés au comité du GARM depuis plusieurs années. Donc, des plans, des photos, des soumissions, ça facilitait vraiment la compréhension. Donc, pour toutes ces raisons, on recommande le soutien financier à 17 500 $.
Ça va pour tout le monde. Proposeur, Bruno, merci. Juste, les gens ils ont toutes les formations, fait que peut-être aller au point essentiel de la recommandation.
Parfait. Deuxième projet présenté par la Tulipe et Gaboury, amélioration du sentier de la chute à Ovide, principalement des trottoirs et des ponts, pour permettre une utilisation sur une plus grande période, je dirais, là, au niveau de ce sentier-là, pour des clientèles aussi à mobilité différente, je dirais, petits enfants, personnes âgées, mobilité réduite pour l'école aussi. C'est un projet qui est présenté en partenariat avec la Corporation de développement Gaboury. 13 800 $ qui étaient demandés sur un projet de 23 000. La balance provient de la municipalité. Donc, en lien avec Aventure Nature, ça met en valeur un patrimoine industriel qui est particulier. Si vous n'êtes jamais allé, je vous invite à aller faire un tour. On a noté que c'est complémentaire aussi au développement qui est fait dans le secteur Est en particulier. On parle de Pointe-aux-Roches, des projets de la Corporation de développement Gabouré avec des prêts à camper, des projets aussi de la coop plein air qui se font dans ce coin-là. Ça démontre la vision de développement que s'est donnée la municipalité, mais c'est à noter que comme c'est des installations de bois en pleine nature, donc l'entretien sera vraiment un enjeu pour assurer la pérennité de l'investissement du FRR. Donc, un 13 800 qui est suggéré.
C'est proposé par Alexandre.
Je vous en parle d'entretien, bien.
Ensuite, un projet présenté par la municipalité de Béarn, des haltes urbaines. Il s'agit de créer 6 îlots dans la municipalité qui permet au public de se détendre, socialiser, se ressourcer, de faire des pauses aussi. Donc, des lieux qui sont équipés de bancs, de tables, de poubelles. On parle aussi d'éclairage par panneaux solaires. Et tout ça là, dans le but aussi que ça desserve autant les familles que les personnes aînées. Une demande de 24 283, un coût total de 40 471, la balance qui est mise par la municipalité. Ça répond à des besoins qui ont été exprimés par la municipalité, par les aînés, les familles. C'est en lien aussi avec les travaux qui ont été faits par la municipalité au niveau de leur politique familiale, au niveau de leur politique amis des aînés aussi. On a noté qu'il y avait un souci aussi au niveau du développement durable, des énergies renouvelables. Toutefois, il n'y avait pas d'indication claire au niveau des lieux qui allaient recevoir les 6 haltes. On ne le voyait pas nécessairement dans le projet. Donc, c'est un petit bémol, mais malgré tout ça, on recommande le soutien pour 24 283 $.
Question, comment c'est proposé? Merci. Jean-Robert.
Projet présenté par la Maison de la famille au vent du lac. C'est un organisme qui est situé à Ville-Marie, qui dessert secteur nord, est et centre, qui est quand même assez nouveau. Le projet qui est présenté, c'est de créer un milieu de vie pour les familles du Témiscamingue. Eux, depuis mars, ils ont élu domicile sur la rue Saint-Anne à Ville-Marie. Et pour optimiser l'offre de services, ils avaient besoin d'aménager leur nouvel espace. Et on parle là, de plus d'une quinzaine de services qui sont offerts par la Maison de la famille. Donc, salle d'animation, espace friperie, prêt de matériel, espace de rencontre, halte de garderie. Donc, eux, ils desservent à la fois là, les familles du territoire, mais aussi les nouvelles familles qui s'établissent sur le territoire. Et leur demande était située à 30 000 $ sur un projet de 64 464. Il faut savoir que l'organisme n'obtient pas encore de soutien au fonctionnement. En tout cas, ça prend un certain temps avant qu'ils soient reconnus. Ils ne sont pas reconnus. Bref, la balance du financement provient de Centraide. Et dans le fond, ce qu'on a noté, c'est que c'était vraiment un lieu de réseautage et d'accueil pour toutes les familles du Témiscamingue, donc services de proximité, qualité de vie, une infrastructure aussi d'accueil et d'intégration pour les familles qui s'établissent nouvellement sur notre territoire. Encore ici, on l'a jugé comme un projet territorial parce que ça dessert des familles du nord, de l'est et du secteur centre. C'est un projet qui est très appuyé du milieu. La plupart des organismes du milieu supportent le projet. Il faut mentionner que c'est un organisme qui est parti tout petit, qui est rendu maintenant à 3 ressources humaines et qui arrive à se dénicher un budget annuel là, à travers le CISAP, Centraide, le soutien à l'action bénévole, le fonds de relance aux services communautaires. Donc vraiment, plein de débrouillardises, là, je dirais, dans ce projet-là. Donc, ce qui est proposé, c'est un soutien à 30 000 $.
Ça va pour tout le monde. Vincent, merci.
Cinquième projet présenté par Saint-Édouard-de-Fabre, c'est l'installation d'un panneau d'affichage numérique à l'extérieur, donc un panneau numérique double face qui serait installé rue principale, route 101, pour permettre de mieux promouvoir les activités qui sont gérées par des bénévoles dans la municipalité, mais aussi tout ce qui est information au niveau santé publique, sécurité civile. La demande est de 30 000 sur un projet de 72 664. Donc, il y a un 37 600 qui est fourni par la municipalité. Ils sont en attente d'une demande auprès de Desjardins pour 5 000. Donc, on a noté vitalisation du milieu, moyen de communication qui est très utile, autant pour les citoyens que aussi pour les touristes, étant donné l'emplacement où il sera situé sur la route 101. Plusieurs touristes qui utilisent cet axe routier qui est très passant. Encore ici, c'est en lien avec la politique familiale et amis des aînés de la municipalité. Dossier bien présenté puis appuyé par le milieu, donc 6 organismes locaux directement de Saint-Édouard-de-Fabre qui étaient en appui au projet. Et un élément qui est à noter, puis je le mentionne là, pour l'ensemble des municipalités, c'est que les frais d'administration ne sont pas des dépenses qui sont admissibles lorsqu'on dépose une demande au FRR. Donc, quand il y en a, dans ce cas-ci, ça ne venait pas jouer sur la somme possible à recevoir, mais si vous en mettez parfois, ça peut venir faire en sorte que la demande, malheureusement, peut être à la baisse s'il y a des frais d'administration parce qu'on ne peut pas les considérer dans les dépenses d'un projet au niveau du FRR. Donc, on recommande le soutien financier à 30 000.
Ça va, Lynn? Merci.
Dernier projet pour le volet municipalité organisme présenté par la Corporation Passe du Lonceau. C'est un organisme qui est situé du côté de Témiscamingue. Il s'agit d'une étude d'avant-projet pour la requalification de l'ancien bassin de mise en charge de Témiscamingue, qu'on connaît sous le nom de la Forbay. Dans le fond, eux, ce qu'ils souhaitent faire, c'est d'engager la firme L'Enclume pour définir des nouveaux usages au bâtiment et aussi vérifier ce qui est possible en lien avec la conformité du bâtiment, en lien aussi avec l'état de la structure, les composantes et les possibilités de requalification. C'est une demande de 14 026 $ sur un projet de 23 377. La portion manquante est assumée par l'organisme. Donc, on a noté que c'était un projet qui s'inscrit dans de la mise en valeur d'un patrimoine industriel qui date de 1919. C'est une démarche logique parce que depuis déjà 2018, soit l'organisme, soit la ville investit, soit dans des études, il y a une citation qui a été faite. Donc, en lien aussi avec la mise en valeur touristique du site, étant donné son emplacement, son histoire, et plusieurs appuis du milieu, donc autant des organismes que RIAM ou la ville. Et donc, on recommande le soutien à 14 026, mais on avait fait une petite remarque, puis ça, on l'a fait dans d'autres projets aussi. Parce que là, vous voyez que c'est une étude d'avant-projet. Au FRR, on ne peut pas soumettre un projet en phase. Donc, ça sera à la corporation d'établir si c'est vraiment cette phase-là ou cet élément-là de leur démarche qui souhaite être soutenu par le FRR, parce qu'après ça, revenir pour le même projet par la suite ne serait pas possible. Donc, on recommande 14 026.
Martin, merci. J'ai vu Martin avant toi, non? Martin Lefebvre. On continue.
Donc, il y a quatre projets qui étaient là. Dans le fond, les projets qui ne sont pas recommandés par le comité du GAM, vous les avez en point d'information. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je ne passerai pas nécessairement dessus.
On continue. 9.8.
Sur le volet projet spéciaux?
Oui.
OK. Donc, projet spéciaux, dans le fond, on reçoit les projets de façon continue. On en a reçu une sensiblement au même moment où on faisait l'analyse pour le volet municipalité organisme, donc on l'a analysé au même moment. Ça a été déposé par la Société d'histoire du Témiscamingue. Il s'agit du projet de développement de l'offre en tourisme culturel et en muséologie au Témiscamingue. Donc, il s'agit de mutualiser une ressource pour deux organisations culturelles. Donc, on parle de la Maison du Frère Moffette qui est gérée par la Société d'histoire et le Musée de Guérin. On parle d'un poste de coordonnateur au tourisme et à la muséologie. C'est un projet qui nous a été présenté sur un horizon de 4 ans, donc avec une partie budgétaire pour activer un plan de développement. Aussi, outils de communication, plan de communication, des frais liés aussi à la mise en place de cet emploi-là. Et ce qui est mentionné au projet, c'est qu'après 4 ans, le projet de développement sera achevé et la ressource sera maintenue, ayant consolidé les deux organisations. Une entrée en poste qui est prévue en janvier 2024, donc on est en... Je dirais en mi-processus. La demande qui était adressée était de 220 000 sur 4 ans pour un coût total, toujours sur 4 ans, de près de 361 000 $. Il y a des financements qui sont confirmés déjà. Là, les montants que je vous dis sont sur 4 ans. Là. Un 69 500 $ qui vient de la Maison du Frère Moffette Société d'Histoire, un 23 000 qui vient du Musée de Guérin, un 20 000 qui vient du ministère de la Culture et des Communications. Il y a des sommes non confirmées qui étaient là par rapport à la ville de Ville-Marie, à la municipalité de Guérin, au niveau de la députation, au niveau de Desjardins aussi. Et dans le fond, au niveau des faits saillants, c'est un projet, on parlait de coopération intermunicipale, là, c'est vraiment un projet de mutualisation qui vise à consolider deux institutions muséales de notre territoire. Ça touche tourisme et aussi regroupement de services. Il faut savoir qu'il y a un réel enjeu, comme dans plusieurs domaines, là, au niveau pénurie de main-d'œuvre puis au niveau recrutement de professionnels. Il faut savoir que de la façon que ça fonctionne au niveau des financements, entre autres du ministère de la Culture, c'est que Il y a des exigences et il doit y avoir certains types d'employés ou d'emplois qui doivent se retrouver au sein d'organismes culturels pour maintenir un soutien financier à la mission. C'est ce qu'on a noté là au niveau qu'une mutualisation est intéressante, bien que ça regroupe seulement deux organisations. Et toutefois, le comité du GAB a noté que l'autonomie du projet doit être atteinte sur un horizon plus court que 4 ans. Et en fonction de ça, il y a une recommandation qui est faite pour le soutien du projet pour un montant de 100 000 $ sur 2 ans, donc soit 50 000 $ par année. C'est une différence de 120 000 $ en moins de la demande initiale. Donc, c'est la recommandation qu'on vous fait ce soir pour ce projet-là.
Questions, commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Roger, Étienne? C'est tout. Merci beaucoup, Véronique. Alors, on passe. Je n'ai pas demandé si vous étiez pour ou contre. Non, je pense que c'était bon. Campagne d'attractivité et autorisation pour le plan de campagne 2023.
Kin. Oui, si vous vous rappelez, à la séance de février, vous aviez accordé un contrat à la firme 724 qui accompagnait l'équipe à l'interne pour préparer la prochaine campagne. Donc, ça, c'était vraiment le service d'accompagnement. Là, on en est rendu à mettre en place la campagne. Ils ont fait une proposition. Donc, ce serait ce soir que vous entérinez cette proposition pour un plan média pour la campagne 2023, tant en tourisme qu'en attractivité. Donc, je vous ai mis la répartition. Je vous ai pas, ben, vous avez un petit document là, qui explique un peu. Là. Bon, on ne voulait pas vendre le punch là, parce qu'il y a des actions qui sont stratégiques. Donc, ce serait d'autoriser la campagne 2023 qui se décline comme suit. Donc, un montant de 46 534 auprès de la compagnie Québécois. Au niveau d'Urbania, 40 557 et 5 sous. Auprès de l'entreprise 724 là, qui va s'occuper de gérer les médias sociaux pour un montant puis faire de la publicité, un montant de 14 000. Ou sinon, il y aurait aussi l'entreprise Imagie Affichage pour un montant de 9 852 $. Donc, toutes ces dépenses-là totalisent 110 919 $, taxes incluses, qui vont être financées par le poste budgétaire campagne d'attractivité de tourisme.
Avez-vous des questions pour Lynn? Proposeur, Simon Gélina, merci. Ça va pour tout le monde? Alors, Service d'aménagement et du développement du territoire, on passe la parole à Daniel Dufault. Daniel, le point adjudication d'un contrat de construction pour le gravelage, compactage, nivelage du chemin de villégiature du lac Gauvin.
Ces projets-là n'affectent pas vos quotes-parts. C'est financé par les montants qui sont prévus par la MRC sur les loyers, les camps de chasse et les chalets qui nous ont décentralisés le ministère. Le premier projet, vous vous souvenez qu'en 2020, la MRC a ouvert 13 terrains au lac Gauvin à Belle-Terre. La ville de Belle-Terre avait déjà commencé le déboisement du chemin, mais il s'est présenté un programme de subvention du gouvernement. Et puis la condition, c'était que si on voulait avoir la subvention, il fallait que ce soit la MRC qui soit promoteur du projet pour le reste de finir le chemin de Gravelé. Alors, on a été en soumission. Vous avez des soumissions dans l'ordre du jour. Alors, la recommandation, c'est le plus bas soumissionnaire conforme, transport des barrettes de Lorrainville, pour 149 000 $ plus un montant de 3 500 $ pour la supervision technique par le médical.
Est-ce que ça va, oui, Alexandre?
142, Daniel.
142. Plus 3 500. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est correct, Daniel, si ça nous coûte moins cher?
Non, mais c'est parce que c'est marqué 142 sur le compte.
Oui. Daniel a annoncé 149. C'est 142 000.
C'est le montant
dans l'ordre.
Merci.